un pour l'argent, deux pour le spectacle, trois pour le game.
Classe, man. Top of the pop. C'est du journalisme total.
Bienvenue dans ce nouvel épisode de Cell Tracks qui aujourd'hui bouleverse un petit peu sa programmation habituelle pour vous parler de rap. Alors je vous entends pousser des cris d'orfraie ici, quoi moi parler de rap? Vous avez raison, j'en suis bien incapable. Et c'est pour ça que j'ai invité Fabrice dans le studio. Bonjour Fabrice.
Bonjour Céline.
Alors avant de se plonger immédiatement dans le thème, comment est-ce que tu te présenterais à nos auditeurs en quelques mots?
Je suis un normalien en anglais et j'écoute du rap beaucoup, tout le temps. J'ai fait mon mémoire sur ça en master 1 et je vais sans doute continuer sur le sujet parce qu'il n'y a que ça qui m'intéresse.
Et c'est vrai, si je t'ai invité pour ce numéro spécial de Sidetrack, c'est bien sûr parce que tu connais beaucoup la musique rap. J'allais même dire que tu es ma référence, moi qui ne comprends pas grand-chose. Et pour que ça soit un petit peu plus clair pour nos auditeurs, en fait, on ne va pas parler de rap en général, mais explorer la carrière, les thèmes et les motifs personnels d'un artiste en particulier qui s'appelle Future. Une première question peut-être pour commencer, pourquoi avoir choisi cet artiste-là en particulier? Je t'avoue que par exemple, je ne connaissais pas moi avant que tu m'en parles, au contraire de personnes comme Kendrick Lamar peut-être, qui a aussi sorti un album récemment, qui a fait beaucoup de bruit, au-delà de la simple sphère des connaisseurs et des habitués.
Alors j'ai choisi Future justement par opposition à un artiste comme Kendrick Lamar qui a sorti un incroyable album il y a de ça un peu plus d'un mois. Un mois, quelque chose comme ça, et qui est un album sur lequel il y aurait eu beaucoup, beaucoup de choses à dire, parce que c'est un rappeur qui est très dense, très compliqué, j'ai préféré éviter le piège que ça aurait pu représenter, parce qu'il y a beaucoup de gens qui en ont parlé beaucoup mieux que moi. Mmh. On pourra vous mettre des liens si c'est un sujet qui vous intéresse. Donc d'une part, c'était un écueil que j'avais envie d'éviter. Mmh. Et d'autre part, c'est quand même un personnage qui est très à part, qui a un son qui est très particulier. Et moi, je voulais parler de Future parce que, au contraire, il a ce côté représentatif de toute une partie de la production rap actuelle. C'est un artiste qui est originaire d'Atlanta, qui est la ville dominante du rap actuellement, qui produit aux États-Unis du rap américain, qui produit un son sur lequel tout le monde plus ou moins se calque ou vis-à-vis duquel tout le monde est obligé de se positionner. Et Future, c'est un personnage qui est emblématique de ce son-là, qui travaille avec tous les producteurs qui façonnent cette musique-là. Des personnes comme Metro Boomin, Mike Will Made It, des noms sur lesquels je reviendrai peut-être au cours de l'émission. Et donc ça me paraissait intéressant d'aborder un artiste qui finalement en fait, a un son très actuel, très, très contemporain. Et à mon avis, c'est débuté par Future. C'est une bonne manière pour quelqu'un qui n'en écoute pas du tout de découvrir le rap des années 2017.
D'accord, donc un artiste très contemporain qui fait des choses très en vogue, on pourrait dire, mais aussi quelqu'un qui est un personnage extrêmement complexe, d'après ce que tu m'as dit, et quelqu'un donc qu'on va découvrir avec toi. Est-ce que tu voudrais commencer par un son peut-être en particulier ou par évoquer un thème pour aborder donc Future?
Comme tu le dis, Future, c'est un personnage très complexe qui est traversé par plein de tensions. C'est un espèce de dépressif anonyme qui est devenu une superstar. Il est sorti, comme j'ai dit, de la scène rap d'Atlanta au début des années 2010, où il a commencé à émerger. Et il s'est lancé sur une trajectoire qui a fini par faire de lui une des plus grosses stars du rap contemporain. Donc, c'est un personnage qui est très attendu à chaque sortie d'album, qui fait des dizaines de millions de vues sur YouTube, puisqu'apparemment c'est un critère important ces temps-ci. Mais c'est une ascension dont il n'est pas sorti indemne. C'est un personnage extrêmement torturé, quelqu'un dont on entend dans sa musique qui souffre beaucoup. Il y a cette espèce de dualité où il fait une musique qui est marquée par des rythmes très, très étouffants, très sombres, très angoissants. Je conçois que ça puisse être très angoissant d'écouter Future pour certaines personnes. Mais c'est cette espèce d'atmosphère pesante, ça devient un écrin en fait pour sa voix à lui. Et qui en fait, on dit souvent que Future il fait moins du rap que des ballades. Et dans ses ballades, il fait quelque chose comme un blues de drogué. Il chante la dépression d'un drogué devenu millionnaire et dont la misogynie atroce cache mal une grande fragilité émotionnelle. Donc pour commencer, pour essayer d'illustrer un peu tous ces thèmes, j'ai choisi un morceau qui est peut-être un peu évident si certaines des personnes qui nous écoutent qui connaissent Future, c'est son gros tube du moment. Et c'est un morceau qui s'appelle Mask Off, qu'on va écouter maintenant. Écoutez bien la flûte.
call it how it is. Hendrix. I promise you, swag, swag. You never admit it. Yo. Percocet. Miley Percocet. Percocet. Miley Percocet. Represent. Gotta represent. Dang. Chase a chick. Never chase a bitch.
Chase no bitch.
Mask on. Fuck it, mask on. Mask on. Fuck it, mask on. Percocet. Miley Percocet. Chase a chick. Never chase a bitch.
Chase no bitch.
Two cups. Toast up with the gang.
Gang.
From food stamps to a whole nother domain.
Got it.
Out the bottle.
Yeah.
I'm a living proof.
Super.
Ain't compromising. Half a million on the coupe.
Gang. Gang.
Drug houses.
Wow.
Looking like Peru.
Whoa, whoa, whoa.
Graduated. I was overdue.
I'm a good
pink money.
Money.
I can barely move.
Barely.
Ask about me.
About
I'm gonna bust a move.
Hey, I'm blue.
Red James.
James.
33 chains.
33.
Ocean now.
Damn.
Cruising Biscayne.
Hit fire.
Top off.
Yeah.
That's a liability.
Big fire.
Hit the gas.
Yeah.
Boosting my adrenaline.
Big fire.
Percocet.
Yeah.
Miley Percocet.
Big fire.
Percocet.
Yeah.
Miley Percocet.
Big fire.
Represent.
Yeah.
Gotta represent.
Gang, gang.
Chase a chick,
chase yeah.
Never chase a bitch.
Be no fine.
Mask on,
yeah.
Fuck it, mask on.
Be fine.
Mask on,
yeah.
Fuck it, mask on.
Be fine.
Percocet,
yeah.
Miley Percocet.
Be fine.
Chase a chick,
chase yeah.
Never chase a bitch.
Don't chase no bitches.
Photo maybe.
Photo.
I drive anything.
Yeah.
Buy my range.
Yeah.
Make them go insane.
Alors c'était Mask Off de Future. Est-ce que tu pourrais nous dire déjà sur quel album ce titre est sorti et puis en quoi est-ce qu'il est intéressant? Alors on entend bien effectivement cette flûte assez hypnotique et peut-être aussi revenir sur ce terme de balade qui m'intéresse énormément à propos d'un rappeur.
Alors c'est un morceau qui est sorti, dont le clip vient de sortir il me semble la semaine dernière, qui est sur un des deux derniers albums qu'il a sorti bout à bout. Puisqu'il a sorti en deux albums en une semaine. Le premier, un album éponyme qui s'appelle Future, et qui est un album très sombre, pour le coup très rap, très marqué par ce qu'on appelle la trap musique, je reviendrai sur le terme après, et duquel est tiré Mask Off. Et un second album qui s'appelle Hendrix, enfin qui c'est s'orthographie HNDR2X, parce qu'apparemment les voyelles ça ne sert à rien. Et sur lequel, qui est un album beaucoup plus pop, presque sucré, où on trouve des morceaux, et pour le coup, pour revenir sur ta question, on trouve plus de ballades. Et donc, pourquoi le terme de ballade? Parce que, comme on l'a un peu entendu dans le morceau, c'est Future, il fait un rap qui est très mélodique. Je parle uniquement de sa voix, pour le coup, on parlera plus avant des instrus par la suite. Mais il fait une musique comme... où il travaille beaucoup sur la notion de mélodie, en fait, beaucoup plus que des rappeurs qui l'ont précédé.
Mmh.
On a l'image souvent du rap comme une musique qui est saccadée.
Ouais,
qui est, et c'est une image qui est vraie jusqu'à un certain point. C'est dérivé, en fait, des clichés qu'on a, enfin, pas de clichés d'ailleurs, mais d'une image figée du rap qu'on a, qui est en fait le rap new-yorkais. Et les artistes rap qu'en fait tout le monde connaît. Genre, j'ai même plus les noms tellement ils sont évidents, mais Nas, Jay-Z, Notorious B.I.G., ce genre de personnages.
Mm-hmm. Et comme tu viens de dire, donc c'est très marqué en fait géographiquement, le rap de New York. Donc tu nous as dit que Future venait d'Atlanta, donc ça se trouve en Géorgie aux États-Unis. Là encore, la composante régionale, elle est importante au niveau du son qu'on entend?
Alors, même pour préciser un peu ce que tu viens de dire, ça se trouve en Géorgie, au sud des États-Unis.
Exactement.
Et c'est fondamental parce que, bon, ça c'est des questions plus larges, mais dans le rap, il y a toujours eu une espèce de... Enfin, la question de la régionalisation est très importante. Et le sud, c'est une région qui est très particulière parce qu'elle a longtemps été dédaignée par l'intelligentsia du rap qui se trouve sur les deux côtes, en fait. Enfin, on a souvent en tête l'image de cette guerre entre côte est et côte ouest... dans les années 90, et le Sud c'était le grand laissé pour compte de cette époque-là, et le rap du Sud était médiatiquement absent. Moi c'est, pour le coup, c'est des... Enfin, moi j'écoute que ça, en fait, faut parler de moi-même, j'écoute que du rap du Sud, pratiquement. Le Sud a dû trouver une identité, s'est construit une identité musicale à part, puisque éloigné des lieux où se faisait le rap, des centres médiatiques et culturels. Et donc ils ont développé cette forme musicale qui s'appelle la trap music. qui est originaire d'Atlanta et qui a un son très particulier qui est marqué. Ça me prendrait des heures de décrire exactement de quoi il s'agit. Mais pour le dire très vite, c'est un son qui est marqué par l'utilisation d'une machine qui s'appelle la TR-808 et qui est une machine qui produit des lignes de basse, comme celles qu'on entend dans Mask Off et comme celles qu'on entend dans beaucoup de morceaux qui sont originaires de ce... Donc c'est les deux points fondamentaux, c'est l'utilisation de la TR-808 pour les lignes de basse. Et là, on ne l'entend pas pour le coup dans ce morceau, mais c'est un cliché qu'on a en tête aussi quand on parle de trap musique en France. Les roulements de hi-hats, enfin de batterie, pour le coup, je m'adresse peut-être trop à des connaisseurs, ou en tout cas à des gens qui ont écouté un peu de rap bien contemporain, mais des espèces de roulements très, très rapides de batterie qui servent à marquer le rythme.
Pour revenir peut-être un petit peu à Future et au titre qu'on vient d'entendre, Mask Off, effectivement, il y a cette flûte qui est assez intéressante.
Incroyable c'est flûte.
Premier à utiliser ça. Pourquoi est-ce que ça marque autant selon toi ?
Alors pourquoi la flûte ça fonctionne ? Pour le coup c'est en lien avec ce qu'on disait sur le personnage de Future et son côté crooner, chanteur de balade, puisqu'en fait ça vient souligner dans le morceau, ça vient souligner l'aspect mélodique de sa voix lui. Et est-ce que c'est nouveau ? Je sais pas, il y a des très bons articles qui sont sortis sur l'usage des samples de flûte dans le rap, hein. On mettra les liens dans la description de l'émission.
Exactement, ouais.
Et je sais, ça va aussi avec un contexte là, mais vraiment une espèce de mode ces derniers mois où il y a beaucoup beaucoup de flûtes dans le rap, énormément de morceaux qui utilisent ce procédé là parce que ça complimente très bien les sonorités de la trap, dans le sens où ça apporte un espèce de contrepoint mélodique plus doux à ces instrus qui peuvent sinon quand même s'avérer très angoissantes. Et l'idée pour créditer celui qui doit être crédité, la production du morceau est faite par Metro Boomin, qui est un des grands producteurs, probablement le producteur le plus célèbre d'Atlanta ou le plus en vogue actuellement.
Donc effectivement une vogue peut-être de la flûte qui a inspiré beaucoup de gens sur internet. Si ça vous intéresse, vous voulez regarder les mèmes qui ont été faits avec cette flûte de Mask Off. Toujours un petit peu pour mieux comprendre qui est Future, comment est-ce qu'il a émergé d'abord ? Est-ce que c'est un artiste qui travaille en solitaire ou qui s'entoure de beaucoup de personnes ? Je viens de parler d'un producteur assez connu. Est-ce qu'il a une maison de disque, un label qui l'accompagne ? Est-ce que c'est plutôt un rap qui se fait en délivrant des mixtapes sur internet, comment est-ce que ça se passe ?
Déjà, la question de son émergence, elle est intéressante parce que ça me permet de revenir sur ce que je disais en tout début d'émission sur le fait qu'il émerge de la scène d'Atlanta, puisqu'en fait, Future, son cousin, c'est un personnage très important qui s'appelle Rico Wade et qui est un des membres fondateurs d'un collectif de producteurs qui s'appelle la Dungeon Family et qui ont, pour citer un grand nom qui devrait parler à nos auditeurs, c'est eux qui ont poussé l'émergence de Outkast, qui est probablement le groupe de rap le plus célèbre d'Atlanta qui a eu un succès crossover. C'est Rico Wade d'ailleurs qui lui a donné ce surnom de Future en lui disant t'es le futur du rap.
Rien que ça donc.
et ensuite sur ses modes de production, de ce point de vue là encore, il est typique de ce rap d'Atlanta, de ce rap du sud des États-Unis qui fonctionne beaucoup sur le modèle de l'hyper-productivité. J'ai dit tout à l'heure, par exemple, qu'il avait sorti deux albums en l'espace d'une semaine. Mm-hmm. Ces deux albums qui sont sortis ont atteint les places numéro 1 et 2 du Billboard, ce qui était un fait jamais accompli auparavant. Et donc voilà, il est sur ce mode-là de l'hyper-productivité. Et encore, il est très calme comparé à d'autres artistes. Je pense à Gucci Mane, notamment, si c'est un nom qui évoque quelque chose à nos auditeurs, qui sort des heures et des heures et des heures et des heures de musique. Lui, Future, est quand même un peu plus calme.
Est-ce que la qualité à chaque fois est au rendez-vous ?
Alors, j'aimerais bien dire que oui, mais non, effectivement. Enfin, encore que Future, il sort toujours des mixtapes qui globalement se tiennent. Après, c'est vrai qu'il y a souvent un ou deux morceaux qui sont toujours un peu en dessous. Ce qui est normal quand on a un tel rythme, puisqu'il sort depuis en gros le projet qui l'a fait émerger, qui s'appelle Pluto, qui est sorti en 2012. Il a sorti une dizaine de projets, enfin plus 5 albums, et plusieurs mixtapes. C'est un rythme qui est ahurissant quand on le compare avec des groupes de rock qui sortent un album tous les 2 ans, 2 ans et demi.
Quelle est la logique derrière ces sorties ? Est-ce que c'est une logique commerciale ou il y a vraiment une recherche artistique aussi derrière ?
Je pense pour le coup que c'est vraiment avant tout une logique commerciale, dans le sens où la mixtape, avant d'être une forme artistique, c'est surtout un mode de diffusion de la musique. Encore une fois, je reviens sur ce que je disais sur l'identité spécifique du rap du sud des États-Unis. Et en fait, l'origine de ce concept de mixtape, qui maintenant sont des projets distribués gratuitement sur Internet, c'est des cassettes qui étaient enregistrées et distribuées de la main à la main, qui étaient vendues depuis des coffres de voitures, que les artistes allaient vendre directement aux dealers et aux gens de la rue, parce que ça servait à construire un circuit de diffusion de la musique parallèle, puisque les rappeurs du Sud étaient ignorés des grandes majors, en fait. Donc c'est avant tout une logique commerciale pour permettre à des artistes qui sinon ne sont pas relayés par les médias de s'assurer une présence dans la rue, en fait, dans la rue et dans les clubs. C'est aussi une forme de diffusion qui est à l'instant un rapport plus direct entre le rappeur et son auditoire.
Donc tout à l'heure tu as mentionné le nom de Gucci Mane et des collaborations qu'avait fait en fait Future avec plusieurs personnes du milieu. Quelle est la spécificité en fait du son de Future, ou même des thèmes qu'il aborde par rapport à ses autres artistes?
Pour moi, ce qu'il a de spécifique, bien que ce soit des traits qui se retrouvent, qui soient prégnants dans le rap des années 2010, surtout le rap d'Atlanta, ce qu'il a de spécifique, c'est cette dualité que j'évoquais entre d'un côté cette espèce de crooner, parce que c'est un rappeur slash chanteur qui a vocation à être une pop star, en tout cas qu'il cherche. On sent qu'il aspire à cette espèce de célébrité, il aspire à faire des tubes crossover. Il a fait un featuring avec Rihanna.
D'accord, donc plus grand public, plus mainstream.
Et d'un autre côté, cette face très sombre, très torturée du personnage, puisque c'est quelqu'un qui parle de drogue constamment et qui est probablement très mal, dans très mauvaise santé, et qui parle de drogue, qui a un rapport aux femmes qui est très problématique aussi, et qui exprime constamment en fait une espèce de souffrance, de noirceur qu'on retrouve dans tous ses albums à des degrés divers. Pour le coup, le projet qui est peut-être le plus noir de Future, qui moi est mon préféré personnellement, c'est DS2, qui est sorti en 2015, DS2 pour Dirty Sprite 2. Et le Dirty Sprite, parce que le Dirty Sprite, c'est un terme d'argot américain pour désigner le sirop de codéine, qui est sa drogue de choix, dont il parle encore une fois à répétition. Pour le dire, c'est un espèce de sirop pour la toux qu'on mélange à du soda et qui a pour effet de ralentir la perception des choses, comme si tout était englué dans un espèce de... Je sais pas, j'essaie d'en parler, mais j'en ai jamais pris. Mais pour se faire une idée de l'effet que ça produit à long terme sur une personne, on peut peut-être écouter le morceau suivant que j'avais amené, qui est sorti justement de Dirty Sprite 2 et qui s'appelle Thought It Was a Drought.
I thought it was a drought. I just fuck your bitch. That's some Gucci flip-flop.
Alors on vient d'écouter I Thought It Was A Drought, c'est ça ? Pourquoi avoir choisi ce titre en particulier ?
Mais alors je l'ai choisi parce que pour moi il est emblématique de cet aspect-là de la musique de futur que j'évoquais juste avant, c'est-à-dire ce côté dépressif, torturé, qui est en fait moins torturé qu'à cœur ouvert. On a vraiment l'impression qu'il est quand il fait ce genre de morceau, qu'il est en train de s'ouvrir le ventre et de déverser sur la table tout ce qu'il a de noir en lui, de torture, ouais, dépressif.
Bref, et pourtant, en même temps, c'est aussi une très grande star aujourd'hui, donc qui vend beaucoup, en tout cas qui est beaucoup écoutée. Il devrait avoir un peu l'ivresse du succès et du bonheur en un sens que lui procurerait la notoriété. C'est pas le cas.
Étonnamment, non. Plus on a l'impression que plus il a de succès, plus il devient nihiliste et plus il devient sombre. En fait, c'est ce qui est intéressant dans ce genre de morceaux également. Que ça prend un peu à contre-pied une tendance du rap qui est que c'est une musique de dealer aussi. Mm-hmm. Donc on a souvent eu... c'est un thème qui est énormément rebrassé, la vente de drogue, le gangstérisme par plein de groupes, depuis Jay-Z jusqu'à Clips, enfin je pourrais, c'est complètement un autre sujet. Mm-hmm. Et en fait, Future, il prend cette musique de dealer et il en fait une musique de drogué. C'est-à-dire qu'il renverse, c'est devient la musique des consommateurs de drogue en fait.
Mm-hmm.
Et couplé à ça, c'est cette manière qu'il a de parler de ses émotions, parler de sa tristesse, de sa souffrance, de ses peines de cœur, même si le terme peine de cœur paraît un peu léger. Et ça fait un peu...
Justement, est-ce qu'on ressent, on va dire, de la compassion à l'écoute de Future, ou alors est-ce qu'il ne ferait pas plutôt l'effet qu'il me fait, c'est-à-dire d'un personnage quand même assez antipathique, notamment dans sa position envers les femmes, qui est un peu problématique, comme tu l'as dit, et qui malgré tout, bien sûr, nous touche, mais en même temps nous fait dire que voilà, c'est quelqu'un qui se rend aussi très malheureux lui-même.
Ouais, alors il y a forcément de la défiance, encore une fois. Donc, je vais pas m'aventurer sur la question de son rapport aux femmes, mais je pense qu'en plus on est d'accord pour dire que c'est de ce point de vue-là, en tout cas, c'est quand même un horrible être humain. Mais il y a quelque part, enfin, moi j'y trouve quelque chose de cathartique en fait. À entendre toute cette... c'est une forme de noirceur qui fait du bien, dans le sens où il y a une catharsis à écouter ce genre de morceaux. C'est vrai qu'en général, c'est pas forcément le genre de musique vers laquelle on va se diriger quand tout va bien.
Yeah. Coming in and out. Trash spot, boom. Got the money coming in, it ain't no issues. I just fucked a rapper, bitch, I should've did shoe. Got the Mac 11 cocky, got the kick too. Serving nigga like no busy.
C'est sur ces mots qu'on quitte Fabrice, mais pas de panique, on le retrouve la semaine prochaine pour continuer cette discussion autour de Future et du rap d'Atlanta. Au programme, entre autres, un petit débat sur l'utilisation de l'autotune dans le rap. N'hésitez pas à réagir à l'émission sur la page Facebook de Sidetracks ou sur transistor.fr. Dites-nous ce que vous en avez pensé et si ça vous a poussé à aller écouter un peu plus de rap, et en particulier Future. Je remercie chaleureusement Marie Lécuyer à la technique et bien sûr Fabrice pour sa participation à l'émission. Rendez-vous la semaine prochaine donc, et d'ici là, ouvrez grand vos oreilles et portez-vous bien à l'écoute de Transistor.